Armand, chapitre 10. Je me déshabillais sans bruit, de manière que Jeanne, même si elle était éveillée, ne m'entendit pas. Les volets n'étaient pas tirés. Je posai mes souliers sur le tapis, la pointe d'abord. Je mis mes vêtements sur une chaise, avec précaution, pour que leur poids ne la fît pas basculer, en faisant attention que des objets ne tombassent pas de mes poches, que des boutons qui eussent pu, au milieu de tant d'étoffes, se trouver à des endroits auxquels je ne pensais pas, ne heurtassent point le dossier. Soudain, fatigué d'être silencieux, et parce que cela me soulagerait sans faire de bruit, je lançai mes chaussettes au hasard devant moi. Traînant les pieds, de façon à pousser et non à écraser ce qui gisait sur le sol, je m'approchai de Jeanne à tâtons, les yeux baissés pour qu'elle ne les vît pas luire, promenant en éventail une main devant moi pour qu'au cas où une porte eût été ouverte, elle ne m'échappât point. Mes doigts glissèrent sur le bois du lit, comme le long d'une rampe, lentement, afin de ne pas s'écorcher aux sculptures des coins. À côté de la table de nuit qui bouge parce qu'elle a toujours un pied sur la descente de lit, je m'arrêtais. Chaque soir, je plaçais le bouton de mon col sur cette table. À cause de cette habitude, petite comme lui, je le tenais dans ma main sans penser. Jeanne était allongée contre le mur. J'hésitais à me glisser entre les draps de peur que mes articulations ne craquassent. À la fin, je me penchai, levai une jambe de façon que le poids de mon corps reposât jusqu'au dernier moment sur le sol, me tenant bien en équilibre parce que le pied qui me portait était nu. Lorsque je fus à demi allongé, je ramenai l'autre jambe, la tendant d'avance pour n'avoir pas à le faire dans le lit. Puis j'avançai mes pieds sous les couvertures parce que je ne peux pas dormir quand ils sont en dehors du lit. J'étais couché. Jeanne, si elle dormait, n'avait rien entendu. J'aime à marcher, à agir silencieusement. Dans les mois qui précédèrent, j'avais souvent pris plaisir à m'approcher de Jeanne, sur la pointe du pied, sans qu'elle s'en doutât, pour lui faire peur. La chambre était obscure. En écoutant Jeanne vivre, je devinais qu'elle était éveillée. J'entendais d'une seule oreille, parce que je reposais sur l'autre, le battement de ses yeux, son souffle. Au bruit de sa langue, je savais si elle avait la bouche ouverte ou fermée. Accoutumé que j'étais à ces bruits à peine perceptibles, il me sembla qu'elle se levait, qu'elle allait partir, quand, simplement, elle remua. Peu à peu, mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Je vis le drap qu'elle avait ramené elle seule par-dessus son épaule, mais sous lequel l'air passait quand même. Je vis ses cheveux qui venaient jusqu'à mon oreiller sans qu'elle le sût, comme un enfant au bord de l'eau quand sa mère coud. Elle poussa un soupir, sans qu'un bruit de respiration l'eût précédé. Aussi farouche avais-je été au moment où elle m'avait parlé durement, aussi bon me sentais-je devenir à présent qu'elle souffrait en silence. Entre nos deux corps, les couvertures retombaient. Elle se tenait toute droite, sur le côté, la chemise tirée jusqu'aux genoux, redoutant même le contact, pourtant peu sensible, de mes pieds contre les siens. Je l'entendis glisser sa main sous l'oreiller. Soudain, elle se cacha le visage. Elle devait pleurer. Je ne trouvais aucun mot pour la consoler. Elle pleurait, immobile. J'étais ému au point que j'eusse voulu la serrer contre moi, l'embrasser. Mais elle n'avait pas encore dormi. Les pensées qui traversaient en ce moment son esprit étaient enchaînées à celles de tout à l'heure. Je résolus d'attendre qu'elle se fût assoupie pour la surprendre, l'âme neuve, dans un réveil. Je ne savais si le temps s'écoulait vite ou lentement. Bien que j'eusse fermé les yeux, j'étais aussi éveillé que s'ils avaient été ouverts. J'aurais aimé à somnoler comme dans les nuits de garde, assez pour rêver, pas trop pour se lever au moindre bruit. Parce que la tête me tournait quand je ne pensais pas, je m'efforçais de suivre des souvenirs, le premier qui se présentait. Arrivé à sa fin, j'ouvrais les yeux. J'étais alors tout petit dans la chambre, longue et haute, loin, très loin de la fenêtre, à peine plus claire que les murs. Afin de ne pas tendre la main en l'air où elle eût pu rencontrer celle de Jeanne, je la glissais vers le bord du matelas jusqu'à la barre froide et solide du sommier métallique dont le contact me ranimait. Longtemps, je passais ainsi d'un souvenir à un autre. Puis, doucement, comme quand je parle seul, j'appelais « Jeanne ». Elle ne répondit pas. « Jeanne ?» répétai-je sans élever la voix, car elle m'entendait certainement. Ce nom qui avait volé de mon oreiller au sien nous unissait. Il résonnait dans l'obscurité après avoir été prononcé. Je le sentais dans ma bouche comme si ma langue avait gardé la forme qu'elle avait prise pour articuler sa dernière syllabe. Il effaçait toute autre pensée. Pourtant, aucun mouvement, aucune parole ne l'accueillirent. Le silence et la nuit bourdonnaient à mes oreilles. J'attendis un instant, puis, avec la même douceur, je murmurai de nouveau « Jeanne ?» Cette fois, elle remua, mais ce fut pour mieux se couvrir, comme si j'avais seulement éveillé en elle son instinct. Je ne pus me contenir davantage.
« Pardonne-moi, Jeanne. Je ne savais pas que c'était si grave. Je te demande pardon. »
Ma voix trembla au début, mais de parler ainsi, sans geste, à Jeanne qui me tournait le dos, fit que mes paroles perdaient de leur sincérité à mesure que je les prononçais. Je continuai pourtant. « Je t'en supplie, Jeanne, oublie tout. Tu sais bien que je suis incapable de faire le mal. » Elle leva la tête, ce qui, durant une seconde, parce qu'elle était couchée, parce que ses bras longeaient son corps, me parut grotesque à cause du souvenir de ces gens qui bougent quand ils font le mort.
« Je ne t'écoute pas, Armand. »
Ces mots me glacèrent. Bien que je sache que l'on ne commande pas à ses oreilles, que, si j'avais parlé, elle eût entendu ma voix même contre son gré, je me tus. Tout était fini. Mon bonheur ne dépendait plus de moi. Une grande détresse m'envahit. Je ne pouvais être plus doux, plus tendre que je venais de me le montrer. J'allais pleurer. Ma salive devint abondante. Mes yeux s'humectèrent. Parce que j'étais couché, parce que la peau des tempes est plus sensible que celle des joues, mes larmes me semblèrent plus abondantes que lorsque je pleure debout. Je ne voulais pas que Jeanne m'entendît. Je pleurais en silence, me déplaçant chaque fois qu'un endroit de l'oreiller était mouillé. Je n'avais plus de force. Un engourdissement, coupé plusieurs fois par des sursauts, parce que je rêve toujours, avant de m'endormir, que je trébuche contre une pierre, m'envahit. Je commençais à me sentir bien. Tout était pour le mieux. Je me laissais aller. Je pouvais dormir si je le voulais. Au milieu de la nuit, j'ouvris les yeux, aussi simplement que si je n'avais pas dormi. Il était peut-être 2 heures du matin. Les larmes avaient séché sur mes pommettes. Mes yeux me semblèrent avoir grandi. Il se trouvait bleu et bien ouvert au milieu de mon visage. À une horloge lointaine, j'entendis sonner un coup. On était à ce moment de la nuit où il est impossible d'apprendre l'heure par les sonneries des horloges, car les heures, les demi et les quarts se confondent. Jeanne dormait sans doute. J'entendis sa respiration régulière. Cette fois, autour de nous, c'était la vraie nuit, où la moindre lumière n'est pas le prolongement du jour et a été éteinte au moins une fois, où les habits sont noirs,
lourd, oublié. Dans un élan de tendresse, je m'approchai de Jeanne, cherchai sa bouche, l'embrassai longuement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle s'abandonnait. Elle avait oublié. Nous nous aimions comme par le passé. Elle me pardonnait lorsque, subitement, se rappelant tout, elle me repoussa.
Alors que la journée se divise en tant d'instants, ce fut à 7 heures juste que je m'éveillai. Il ne faisait pas encore grand jour. Jeanne dormait. Son corps était imprimé d'un mouvement régulier, apparent à l'épaule. Je me souvins de tout, et immédiatement je ressentis une oppression dont je ne pus me défendre, immobile et couché. Une longue journée commençait pour moi seule. Elle était toute proche de la veille. Mon sommeil avait été trop court pour que j'eusse changé. J'avais reposé 3 heures en comptant le temps pour m'endormir. Moi, qui, au matin, suis confiant, j'étais aussi désemparé qu'au milieu de la nuit. Je n'osais remuer, bien que, lorsque je m'éveille de bonne heure, je me tourne pour que la pensée que je viens de me coucher m'aide à me rendormir. Je sentais que dès que Jeanne ouvrirait les yeux, il se passerait quelque chose de décisif. Sa tête avait glissé de l'oreiller qui, seul, semblait faire partie d'un lit vide. Ainsi, dans cette pose où il y avait de la grâce, on eût dit qu'elle m'aimait encore, que rien ne s'était passé, qu'elle s'éveillerait en souriant, que les paroles qu'elle avait prononcées avaient peu d'importance à côté de la réalité de son abandon. La lumière du matin gagnait, en haut des murs, les reproductions libertines que nous regardions le soir. Tout semblait étranger. Les chaises que l'on déplace avaient la même immobilité que l'armoire. Mes souliers, sur le sol, m'apparurent comme ceux d'un vagabond dans un fossé. Des objets que je ne reconnaissais pas m'intriguaient. À la couleur fraîche des carreaux, je devinais que le ciel était bleu, qu'il le resterait toute la journée, que le soleil s'était déjà levé, que de l'horizon, il dorait les façades, donnant sur le levant. Maintenant, Jeanne me faisait face. Ses mains, sa bouche, ses yeux étaient fermés. Par moments, pour mieux respirer, elle cherchait l'air comme une odeur. Ses paupières minces était sillonnée de veines bleues, comme si les yeux eussent été trop grands pour elle. Mon souffle caressait son visage. Je détournais la tête pour qu'il ne l'éveillât pas. De temps en temps, elle respirait plus vite, comme si elle allait s'éveiller, ou bien elle semblait avaler quelque chose. Je redoutais alors qu'elle n'ouvrît les yeux, car j'ai toujours cru qu'en dormant, l'on ne pouvait commander à sa gorge. Sans qu'aucun geste ne m'eût prévenu, ses paupières se levèrent soudain. 2 yeux me regardèrent. Leurs pupilles, comme celles des chats, étaient plus grandes parce qu'il faisait encore sombre. Elles ne bougeaient pas. On eût dit que les paupières les recouvraient encore. Parce que ses yeux étaient fixes, il m'apparut qu'il ne distinguait que les choses immobiles, que mes mouvements leur échappaient. Je pensais alors à prendre Jeanne dans mes bras. Elle avait dormi. Au matin, ma faute lui apparaissait peut-être moins grave. Comme la nuit, je murmurai d'abord « Jeanne ». Elle entr'ouvrit la bouche pour que je comprisse que c'était parce qu'elle le voulait bien qu'elle ne me répondait pas. Je continuai « Tu m'en veux encore ?» Elle s'accouda sur le milieu de l'oreiller, regarda derrière son bras en faisant tourner la chaire. « Non, Armand, pourquoi t'en voudrais-je? C'est fini entre nous. » Cette parole, parce qu'elle était la première que Jeanne prononçait, m'apparut comme le reflet exact de sa pensée. Je compris qu'elle avait pris une décision avant de s'endormir et que, puisque les heures de sommeil ne l'avaient pas affaiblie, il n'y avait plus rien à espérer. Au contraire, à mesure que le temps passerait, elle s'éloignerait plus encore de moi. J'étais seul. C'était irrémédiable, au point que nulle émotion ne m'envahit. J'étais calme. Elle s'était assise sur le lit. Bien qu'elle dût être émue, elle tendait les bras pour tâcher de toucher, sans plier les jambes, la pointe de ses pieds. Puis, se tournant subitement vers moi, elle me demanda de me lever afin de n'avoir pas à passer sur moi pour sortir du lit. J'obéis. Comme quand elle descendait marche, je lui tendis la main. Elle la prit, la serra avec force, mais la lâcha tout de suite dès qu'elle eut posé un pied à terre. Je me recouchai au milieu des draps, entre nos deux places chaudes. Je baissai les manches de ma chemise parce que j'ai froid quand mes bras sont nus. La nuque, appuyée contre un oreiller, je la vis s'habiller. Elle ne parla pas, même lorsqu'elle chercha pendant une minute un de ses bas, même quand elle fit tomber sa robe. Elle passait d'une pièce à l'autre, sans hésiter, laissant les portes ouvertes lorsqu'elle revenait. Quand elle fut prête, elle se rendit au salon. Je ne l'entendis plus.